Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Retour sur RMC, RMC Story, dans Estelle Midi, on est ensemble jusqu'à 15h, avec vous bien sûr au 32-16, avec Rémi Barré, avec Thierry Moreau, Fatima Benomar et Fred Hermel. Dans un instant, on va parler du retour du Covid, ça y est, c'est fait, début de la 8e vague, est-ce que ça vous fait encore peur? On attend vos réactions sur l'appli RMC, 13h30, ce sera le meilleur du jour sur RMC, le zapping, 13h50, la minute conso avec Stéphane Pedrazzi, et on parlera du phénomène du cashback. À 14h, l'histoire d'une famille de 10 enfants dans le Bas-Rhin. Une famille qui a touché près de 6 000 € d'allocations au mois d'août. Est-ce qu'il faut plafonner les aides sociales en France? On attend vos réactions au 32-16 et puis on vous fera gagner de magnifiques cadeaux Apple dans cette émission.
Tout au long de la semaine, dans toutes les émissions d'RMC, nous continuons le jeu du coffre vers 14h40. L'un d'entre vous sera avec nous à l'antenne. Il gagnera soit un iPad, soit une Apple Watch. Et à partir de ce moment-là, il faudra faire un choix. Soit vous gardez votre cadeau, soit vous y renoncez, et alors vous pouvez ouvrir le coffre RMC avec à l'intérieur des AirPods ou l'iPhone 14 Pro Max. C'est le top du top de l'iPhone. Pour jouer, vous vous inscrivez tout de suite en envoyant coffre par SMS au 73216. Coffre par SMS au 73216.
RMC Estelle Midi.
Et on va tout de suite s'intéresser au retour du jour dans Estelle Midi, c'est celui du Covid. On l'avait totalement oublié cet été, mais il revient sournoisement dans notre quotidien. 41 000 cas positifs détectés hier, c'est 56% de hausse par rapport à la semaine dernière. Alors à qui la faute, Rémi ?
Eh bien aux enfants. Et l'augmentation du nombre de cas Covid est surtout visible chez les enfants, en particulier chez les moins de 10 ans. La contamination de cette tranche d'âge a augmenté de 30% par rapport à la semaine dernière. Alors que l'on pourrait imaginer un rôle prépondérant dans la rentrée, ah oui, la rentrée scolaire, elle est faite, donc les enfants se contaminent, eh bien les médecins penchent pour d'autres explications, notamment à la multiplication des nouveaux variants et à un rattrapage d'Omicron sur cette tranche d'âge. Auparavant moins contaminant qu'un adulte, les enfants le seraient aujourd'hui tout autant. Selon les dernières données de Santé publique France, 41 850 cas positifs ont été recensés en 24 heures contre 26 918 le mardi de la semaine précédente. Tu l'as dit Estelle, ça représente une hausse de 56%, ce qui donne une moyenne glissante, c'est-à-dire une tendance sur le long terme au-dessus des 20 000 cas quotidiens. Conséquence, même s'il reste encore très bas, le nombre de malades du Covid-19 admis chaque jour en soins critiques a cessé de diminuer, contrairement à ce qu'on observait auparavant. La moyenne est de 44 admissions en soins critiques par jour. Pas de doute, selon Mahmoud Zurek, il est épidémiologiste et professeur en santé publique, tout indique que le début de la 8e vague est déjà là.
Alors, le Covid vous fait-il encore peur? Je vais commencer avec vous, Fatima.
En tout cas, c'est une réalité dans le sens où il y a une unanimité scientifique sur cette 8e vague, ça ne se discute pas. Est-ce que ça me fait peur? J'ai l'impression, je pense, j'espère qu'il y aurait eu une conférence de presse ou des messages plus alarmistes si cette 8e vague allait avoir des grosses conséquences en termes de saturation des services de santé publique, etc.
Tôt,
j'espère que non. Mais c'est sûr que typiquement, quand j'ai vu des préconisations de bien maintenir les gestes barrières, mais moi j'avais limite du mal à me souvenir exactement de ce que c'était les gestes barrières. C'est-à-dire qu'il y a quand même tout un environnement de prévention et de pédagogie de la répétition qui s'est beaucoup atténué ces derniers mois, et que du fait que le masque ne soit plus obligatoire nulle part, etc., c'est sûr qu'on s'est beaucoup relâché. C'est une évidence. Donc, je pense que comme la moyenne des gens, je ne peux pas improviser le rappel, on va dire, des gestes que je dois garder en tête. Ce serait bien qu'il y ait de nouveau des campagnes de prévention s'il le faut. Mais en tout cas, on disait avant, pendant la pandémie, que on allait durablement garder les bonnes habitudes des gestes barrières et de tout ce qu'on avait appris. J'ai l'impression que c'est plus compliqué que ça.
Alors les gestes barrières, se laver les mains certainement. Enfin, moi j'ai pris le métro il y a deux jours et la rame était bondée. J'étais la seule avec un masque. Je me sentais presque mal à l'aise. Je me disais j'ai l'impression que tout le monde me regardait bizarrement et tout, alors que je mettais pas parce que j'avais le Covid, je mettais pour me protéger justement. Enfin voilà, j'étais la seule, donc effectivement les gestes barrières ont manifestement disparu. Est-ce qu'il va falloir remettre les masques? Est-ce que vous, par exemple, à titre personnel, pour l'instant Thierry Moreau, vous remettez votre masque?
Oui, je le remets quand il y a des endroits bondés. Il y a une question de bon sens. Alors il faudra peut-être quelques campagnes.
Le bon sens s'est perdu, je vous le dis.
Il faudra peut-être quelques campagnes de communication de la part du gouvernement pour rappeler un certain nombre de choses. Moi, le bon sens fait que Fred, il a un masque dans sa poche. Moi, j'en ai un dans mon sac.
Il a un FFP2 en plus.
Et quand je vais dans un endroit bondé, eh bien, je le mets. L'autre jour, j'étais dans une file d'attente pour partir, pour prendre l'avion. J'ai mis mon masque parce qu'on était très serrés les uns contre les autres. J'étais effectivement à peu près le seul. Donc, toute façon, enfin, quand on lit la littérature scientifique, on sait qu'il y aura une huitième, une neuvième, une dixième vague et que les vagues vont être de moins en moins intensives. On a aussi un recul aujourd'hui de 2 ans. On sait que ça touche les plus faibles. On sait que maintenant on a un vaccin.
Enfin, ça touche tout le monde.
Oui, mais qui a peu d'effets secondaires. On voit qu'il n'y a pas encore d'impact, même si ça réduit la décélération du nombre de cas critiques. On voit quand même qu'il n'y a pas trop d'hospitalisation, pas trop d'urgence, pas trop de décès.
On est au début, c'est normal. Critiques.
Oui, il y a un décalage, je sais, mais les scientifiques s'accordent pour dire qu'on devrait passer cette vague à peu près normalement. Mais effectivement, je pense que le bon sens, quand on est dans un endroit bondé, on porte le masque et on fait attention et on se lave les mains. Et puis peut-être une petite campagne de rappel à l'entrée de l'hiver de la part du gouvernement pour rappeler les gestes barrières.
Alors, on sera avec Rémi Salomon dans un instant, président de la commission médicale de l'APHP. Mais vous avez plein de messages.
Oui, c'est pas une vue de l'esprit. On a déjà des témoignages sur Direct Studio de personnes qui viennent d'attraper le Covid, de contracter le Covid-19. Il y a Guillaume qui nous dit « Bonjour, j'ai 41 ans, je suis en très bonne santé, 3 doses de vaccin, je n'ai jamais contracté le virus, je me pensais tranquille, eh bien, que nenni, je suis cloué chez moi depuis 3 jours avec 2 variants trouvés dans mes prélèvements et le virus m'a couché. » Et puis Séverine qui nous dit « Le Covid, ma grand-mère de 96 ans, mon père et ma mère viennent tous 3 de le contracter pour la première fois. »
Et donc Rémi Salomon est avec nous, président de la commission médicale de la PHP. Merci beaucoup professeur d'être avec nous.
Bonjour.
Alors vous avez tweeté notamment sur le sujet, vous paraissez assez inquiet du début de cette 8e vague.
Inquiet, bah oui, enfin il y a quand on regarde le nombre de cas qu'on appelle incidents, c'est-à-dire hein, de personnes chez qui on trouve le virus, augmente de manière assez nette depuis quelques jours. C'est assez dynamique, donc oui, vraisemblablement on est au début d'une 8e vague. Donc inquiet, oui, je suis, c'est vrai, je viens d'entendre là vos invités qui disent ça va pas être trop important, il va pas y avoir trop de cas graves. Tout ça est probablement vrai. On n'est jamais sûr de rien. Je rappelle quand même que chez les sujets âgés, donc plus fragiles, il faut faire des rappels. On sait que la vaccination n'a qu'un effet qui est... Je rappelle d'abord que la vaccination est très efficace contre pour se protéger des formes graves, mais beaucoup moins des formes, et comme vient de le dire, des formes légères, hein, ça c'est vrai. Mais des formes graves, elles restent très efficaces. Et donc c'est quand même important de le rappeler et de dire qu'il faut quand même chez les sujets âgés faire des rappels. Et donc ceux qui n'ont pas fait de rappel depuis longtemps... ils sont à nouveau un peu à risque hein, de faire une forme grave qui peut les emmener à l'hôpital. Bon, ça c'est le premier point. Après, il y a un autre élément qu'on ne dit que très peu souvent, c'est que même si on fait pas un Covid grave, si on fait un Covid, voilà, comme on a entendu, hein,
un petit Covid
autour d'eux, un petit Covid, on va dire. Il y a quand même de temps en temps des gens qui gardent des symptômes pendant de nombreux mois. Ça peut être très handicapant, ce qu'on appelle le Covid long. Aussi, et ça on le dit pas parce que c'est pas encore des données très solides, mais quand même il y a des études qui semblent montrer que à distance, même si on n'a pas fait, même si le Covid était léger, on peut avoir des petites lésions au niveau des vaisseaux, au niveau du cœur, voire au niveau du cerveau. Donc il est
bah, merci de me dire ça, je suis hypochondriaque, super.
Donc non mais je veux pas non plus
bon bah c'est fait là, trop tard.
Mais c'est simplement pour dire que c'est pas tout à fait anodin, quoi. C'est pas juste une petite grippe, hein, comme on l'a vu.
Une grippette, oui, c'est ça.
Voilà. Je pense que c'est mieux d'éviter quand même d'avoir, dans la mesure du possible, de diminuer les risques. Mais alors, les risques, c'est pas que le vaccin, évidemment, hein, on vient de le dire. C'est aussi, c'est le masque, c'est les gestes barrières, c'est l'aération. Ça, on l'a dit, mais finalement, on le fait pas. Dans les lieux où il y a du monde, il faut installer de l'aération dans les écoles, dans les lieux publics. Et ça, c'est un truc qu'on a juste laissé de côté. Et c'est bien dommage.
Alors, moi, j'ai une question à vous poser. Dans plusieurs pays, comme l'Espagne, par exemple, on considère aujourd'hui que le Covid, finalement, c'est comme la grippe. Donc, on ne s'arrête pas, on ne s'isole pas quand on a le Covid. Un peu, c'est un peu laissé au choix de chacun. En France, aujourd'hui, quand vous avez le Covid, vous êtes obligé encore de vous isoler pendant 7 jours, 5 si vous n'avez plus de symptômes depuis 48 heures et que vous avez un test négatif. Est-ce qu'il faut qu'on apprenne à vivre avec, Rémi Salomon, avec le Covid, ou est-ce qu'il faut qu'on maintienne encore ces règles, je veux dire, d'isolement?
Alors, je ne sais pas sur les règles d'isolement. Je pense qu'il faut, si on a le Covid et qu'on est malade, on est mieux, effectivement, à rester chez soi et à pas le transmettre. Si on est asymptomatique, ben, on est mieux de bien faire attention, de garder le masque. Est-ce qu'il faut s'isoler systématiquement? Je ne sais pas. Je pense qu'il faut, il faut effectivement adapter les mesures à l'évolution à la fois de la circulation du virus. Et puis aussi parce que avec le temps passant, c'est vrai qu'il faut vivre avec. Pour moi, ça ne veut pas dire le négliger, vous voyez.
Oui, quelque chose.
Effectivement, on vit avec, on adapte. On ne peut pas bloquer un pays, évidemment, comme on l'a fait il y a 2 ans. Ça, c'est une évidence. Il faut que les enfants aillent à l'école, etc. Mais ce faisant, il faut aussi qu'on fasse attention à protéger ceux qui sont plus fragiles. Et c'est mettre le masque, c'est aussi voilà, faire attention aux autres, hein, donc à ceux qui sont plus fragiles.
Bah, merci beaucoup, en tout cas, professeur Rémi Salomon, d'avoir été avec nous.
Angoissé. Hein, il ne vous a pas angoissé,
bah, quand
même.
Bien sûr que si, m'a angoissé.
Ah, c'est un discours de vérité.
Oui, oui, bon, j'avais pas besoin de ça, vous me direz, mais enfin bon. Non, non, mais voilà, il faut faire attention.
Oui.
Non, mais c'est surtout sur les formes. Vous faites un petit Covid et derrière, vous vous retrouvez avec un problème de vaisseau, donc c'est quand même un peu embêtant. Vous, Fred Hermel, donc vous baladez toujours avec votre FFP2, il ne vous a jamais quitté?
Jamais, jamais. Je n'ai jamais cessé les gestes barrières.
Vous n'avez jamais de masque, vous plaisantez ou quoi?
Non, mais
je vous ai
là,
jamais vu avec un masque.
Mais non, mais dans les
il est venu tout à l'heure me dire bonjour. Hein,
j'ai checké comme ça de loin. Enfin, je veux dire, c'est-à-dire que j'ai adapté ma vie naturellement. C'est-à-dire dans le métro, je mets toujours le masque. Hier, j'étais au supermarché, il y avait un petit peu de monde dans la queue. Voilà. J'ai le masque dans mon short, j'ai mis le masque les 10 minutes de, même pas les 7-8 minutes de queue. Voilà, je fais attention. Aussi pour les autres aussi, parce qu'en plus, il y avait une personne âgée juste devant moi, j'ai mis le masque. Et puis, mais je n'ai pas peur pour moi, en fait. Pour une raison très simple, c'est que je fais attention. Et qu'en plus, le vaccin marche. J'ai eu le Covid au mois de mars. J'ai senti en moi que ça aurait pu être grave. Sans le vaccin.
Mon vous corps l'avez refilé à pas mal de monde, il paraît.
Ah non, pas vrai. Non, non.
Ah ben, bah à Paul Lassen, déjà notre producteur.
Oui, bah c'est. Enfin, nous étions dans la même voiture, donc l'œuf oui, bah, de la poule, hein, là-dessus, on n'en sait pas trop. Donc, le vaccin. Et moi, j'attends un truc, vraiment. Moi, j'ai 52 ans, même si je fais beaucoup moins. J'espère que bientôt, la vaccination sera ouverte aux gens de plus de 50 ans, comme ça, pour histoire d'être vacciné avant l'hiver. Avant l'automne et l'hiver. Je souhaite. Alors, il y a des gens qui refusent le vaccin. Moi, je souhaite parce que je me sentirais.
Bah, dites que vous avez plus de 60 ans. De toute façon, il y a plein de doses que personne se fait vacciner.
Bah,
personne ne fait de rappel.
Mais moi, je suis. Alors, moi, je suis.
Tu respectes les règles.
Je respecte les trucs. Bon. Si le médecin dit.
Mais oui.
C'est. T'as 52, tu dois pas vacciner. Je vaccine pas.
Moi, j'ai un diabète.
Tu peux vacciner. Tu vas le faire. Oh, voilà.
Alors, on est avec Mathieu qui nous appelle de Rouen dans le Morbihan. Bonjour, Mathieu. Mathieu? Ah, mais il est raccroché. Alors que normalement, les Bretons sont toujours sympas. Je suis quand même très étonnée.
Bon,
en plus, il était routier du Morbihan et il nous raccroche au nez, disons.
C'est doublement sympa.
Non, mais on va essayer de le reprendre en ligne. Mathieu, Aude est avec nous. Elle nous appelle de l'Ain. Bonjour, Aude.
Bonjour.
Aude, est-ce que vous êtes inquiète par ce retour du Covid, cette 8e vague?
Ah bon? Pas du tout.
D'accord.
Pas du tout, du tout. Enfin, là, moi, mes enfants ont été cas contact dès le deuxième jour d'école.
Ah.
Donc, on vient pas de dire que c'est l'école qui donne le Covid, hein, parce que ils sont rentrés à l'école le jeudi, le vendredi, on avait déjà des mots dans les cahiers comme quoi il fallait les tester parce qu'ils étaient déjà cas contact. Et enfin, franchement, non, il faut arrêter. Ma fille, elle l'a eu du coup la semaine dernière, donc elle est quand même allée une semaine à l'école avant de le déclarer parce que on a fait des autotests, mais ils étaient négatifs.
Mm-hmm.
Sachant que on nous en fournit un, mais il faut les tester plusieurs fois, donc il faut les payer en plus ces autotests. Et voilà, enfin, à un moment donné, moi, donc elle est allée une semaine à l'école avant d'avoir le Covid, elle a eu une demi-journée de Covid, et après, il faut encore qu'elle reste à la maison pendant une semaine. Donc, enfin, c'est pas possible, quoi. À un moment donné, les gamins, ils peuvent pas passer encore une troisième année scolaire dans ces rythmes-là.
Et si on vous dit, Aude, il va falloir remettre les masques pour les enfants, vous allez le faire?
Ma deuxième n'est pas concernée parce qu'elle est en maternelle, mais la grande, la grande, comme sa sœur a eu le Covid, elle l'a mis le masque. Mais enfin, voilà, s'il faut les mettre, ils les mettront à l'école. Et moi, s'il faut le remettre, je le remettrai aussi. Moi, cette semaine, on a fait attention, on a mis les masques, tout ça, les gestes barrières, je dis pas, mais c'est pour tout. Enfin, il faut pas les cantonner au Covid. Il faudrait que ce soit comme ça quand il y a la gastro, quand il y a la grippe. Enfin, faudrait que ce soit comme ça pour tous les virus, parce que le Covid, oui, mais il n'y a pas que le Covid qui tue. Enfin, la gastro à notre époque, elle tue encore, quoi. Donc la grippe aussi, oui. Donc on peut pas cantonner ça au Covid. Il faut et voilà. Soit on applique ça pour tous les virus, soit on dit que le Covid, à un moment moment donné, maintenant, ça va devenir un virus saisonnier, il va falloir apprendre à vivre avec et qu'on arrête. Enfin, là, moi, j'ai fait le calcul entre la perte d'activité, tests qu'il a fallu acheter, les pleins de gasoil, enfin, le gasoil, parce que le labo le plus proche est à 25 km aller-retour, la pharmacie la plus proche est à 20 km aller-retour. Le Covid de ma fille m'a coûté presque 100 euros, donc, enfin, à un moment donné, il faut.
C'est pas possible.
Non, c'est pas possible. Enfin, à l'heure actuelle où on nous parle de pouvoir d'achat, tout ça, on peut pas, on peut pas continuer dans ces conditions. Alors que les personnes qui soient à risque, enfin, moi, j'ai une tante qui est à risque, quand on va la voir, on fait attention, mais on peut pas, enfin, voilà, on peut pas continuer comme ça, c'est pas possible.
Mais merci en tout cas Aude pour ce témoignage et Aude qui pointe du doigt un vrai problème, c'est que le Covid est un problème, c'est jamais agréable de rester chez soi cloué au lit, mais ce qui pose aussi problème, c'est qu'aujourd'hui il y a l'inflation, il y a aussi pénurie de main d'œuvre dans les entreprises. Non mais tu risques de te retrouver, imagine Thierry, aujourd'hui t'es restaurateur, t'es obligé de fermer deux jours par semaine parce que t'as pas de main d'œuvre et en plus tu te retrouves avec deux serveurs qui ont le Covid.
Et juste, mais la question des pharmacies à 10 km de chez soi.
Ça, je rajouterais un élément, elle dit que ça lui a coûté 100 euros, je rappellerai juste que les tests dans tous les pays qui nous entourent sont entre 90 et 100 euros.
Aude, elle s'en fout. Aude, elle n'a pas envie de tester.
Mais Aude, elle a la bonne attitude. Mais Aude,
elle a pas envie que sa fille elle reste une semaine chez elle alors qu'elle est
asymptomatique. Elle a la parfaite attitude. Elle a fait mettre le masque à sa grande. Quand elle va voir sa tante, elle met son masque. Elle respecte les gestes barrières. Et en plus, ça va lui éviter d'avoir des gastro et des rhumes.
Oui, mais ce que je te dis, c'est qu'Aude, elle était assistante maternelle. Elle perd son emploi pendant une semaine parce qu'elle ne peut pas aller bosser parce qu'il faut qu'elle garde sa fille. En fait, le problème du Covid, ça va être ça. Il y a eu un moment où il y avait 500 000 cas par jour. Toutes les entreprises étaient paralysées. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Là, on a un problème de pénurie, on a un problème de perte de pouvoir d'achat. Qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire que les gens qui vont avoir le Covid, ils ne vont plus se déclarer. Parce que s'ils se déclarent, ils ne peuvent pas bosser. C'est ça aussi le problème. Et ce qu'il faudrait faire, Fatima, comme en Espagne, où effectivement, on considère que le Covid est une maladie comme une autre, si vous souffrez du Covid, comme vous avez la grippe,
c'est un peu ce qui se passe dans les faits.
Vous déclarez.
C'est un peu ce qui se passe dans les faits.
Non, aujourd'hui, tu es asymptomatique, tu es obligé d'être isolé 7 jours. Et c'est ça qui risque de poser problème.
Et en tout cas, ça tire le fil de tout plein d'autres dysfonctionnements, c'est-à-dire que ça nous rappelle effectivement qu'il y a des territoires qui sont très très éloignés de structures de santé, même d'une pharmacie, c'est quand même, rien que ça c'est quelque chose qu'il va falloir un jour revoir dans le fameux monde d'après quoi.
Alors Mathieu est revenu, Mathieu qui nous appelle donc de Rouen dans le Morbihan. Bonjour Mathieu.
Bonjour Estelle, bonjour tout le monde. Bonjour,
il fait beau Mathieu. Dans le Morbihan?
Ouais ça va, il y a un petit orage donc c'est pour ça, je ne sais pas trop bien.
Ah oui, mais c'est normal, mais ça va se lever, vous savez comment c'est là-bas, Mathieu. Mathieu qui est routier. Mathieu, elle vous fait peur cette 8e vague ou pas?
C'est ça. Alors, Estelle, vous venez de dire tout ce que j'allais dire, quoi. Moi, demain, j'ai le Covid. J'ai le Covid, je suis asymptomatique, je retravaille. Hein. Moi, parce que le problème qu'il y a avec le Covid, c'est que la sécurité. Moi, j'ai eu le Covid au mois de mars cette année. Je me suis fait indemniser au mois d'août. Hein.
Ah ouais?
Une semaine d'arrêt. Donc, comme vous dites, là, les temps sont durs, tout augmente. Se priver d'une semaine de salaire, c'est pas possible. Moi, demain, j'ai le Covid, je suis asymptomatique, je vais très bien, je vais traiter le Covid comme je traite la grippe. Si ça va bien, je vais au travail. Si ça va pas, je resterai chez moi et je me mettrai en arrêt. Mais si ça va bien, pourquoi aller au boulot, quoi?
Après, le problème, Mathieu, il est pas tant pour vous que pour les autres, parce que vous côtoyez d'autres personnes, et si vous leur dites pas que vous avez le Covid, vous risquez de leur transmettre, et elles risquent de le transmettre à des proches, par exemple, plus âgés ou immunodéprimés.
Après, un masque, il s'y met à
faire des précautions.
Mais oui, c'est ça.
En prenant des précautions, on va dire, je fais mon temple à mon fils qui est à l'école, pareil que l'auditrice d'avant. On a déjà reçu un mail comme quoi il y a un cas positif dans sa classe, il faudra le tester. Moi, je me ferai un autotest si mon fils est positif. Mais après, je n'irai pas me mélanger dans la foule, je n'irai pas en boîte de nuit, je n'irai pas en festival, je n'irai pas en fest-noz. Faire profiter tout le monde. Je resterai chez moi, je ferai attention, je prendrai mes précautions, mais j'irai au travail, je n'irai pas me mettre en arrêt.
Imaginez, Mathieu, votre fils, il est positif, mais il est asymptomatique, tout va bien. Vous le gardez chez vous une semaine ou vous l'envoyez à l'école?
Mais j'ai envie de dire que après on va dire je suis dans un cas où c'est un peu facile pour moi de décider parce que ma femme travaille à domicile.
D'accord.
Donc, il peut rester à domicile, femme travaille à domicile. Donc pour ça, j'ai pas trop de soucis. Mais après pour les gens qui ont des
enfants positifs et qui ont des boulots,
voilà. Et du coup ils seront obligés de décider, mais moi j'ai pas de problème là, quoi. Après, c'est vrai qu'on en fait beaucoup sur le Covid, on en fait beaucoup de choses. Je pense que le choix que je fais là, beaucoup de gens n'auraient pas à le faire si, on mettrait aussi les moyens à la sécurité sociale d'indemniser en temps et en heure parce que moi je vais dire moi ma femme travaille donc je perds une semaine de salaire, je vais m'en sortir encore. On va s'en sortir. Mais une femme, un parent seul qui a deux enfants qui doit se priver d'une semaine de salaire à la fin du mois et qui doit attendre six mois pour se faire indemniser. Bah non, et c'est pas possible pour ces gens-là quoi.
Bah, vous avez raison Mathieu et merci d'avoir poussé ce coup de gueule sur sur RMC. Il faut changer les règles ou pas Fred Hermel?
Je pense qu'il faut changer les règles. Vraiment parce que aujourd'hui en plus nous sommes dans une grave crise économique.
Mais c'est ça.
Et donc là à un moment il faut s'adapter voilà, c'est et pourtant je suis assez radical sur sur la question du Covid
quoi. Ah oui,
quoi.
Ça m'étonne.
Oui, mais voilà, mais les règles mais à partir du moment où il y a comment dire, un respect de l'autre, un masque FFP2, on est positif, mais on est asymptomatique, on fait attention, on respecte les autres. Franchement, on peut même faire de la télé. Hein. Je veux dire, je peux être là avec un masque,
ça
peut faire de la télé.
Elle-même, en fait.
Ouais, donc,
et dans les faits, parce que j'ai regardé encore tout à l'heure. Je suis allé
les règles
voir
sont
sur
les règles, mais... comme le dit Fred, et il les respecte. Mais dans les faits, elles s'adaptent. Ce que vient de nous raconter notre auditeur, c'est exactement de la souplesse et du bon sens.
Oui, sauf que si toi t'es positif, même si t'es asymptomatique, tu vas nous le dire et tu viendras pas dans l'émission pendant 7 jours.
Oui.
Voilà. Et donc tu perdras ton salaire. Et donc tu perdras ton salaire.
Oui, je l'assumerai.
Voilà.
On peut pas venir avec un masque, par exemple.
Non, on peut pas, non. Bah non, bien sûr que non, tu peux pas. La règle est la même pour tout le monde. On va pas.
Sauf qu'il y a plein de gens qui vont pas se tester en étant asymptomatique.
Donc, ou alors ils vont être positifs, mais ils vont le garder pour
donc,
eux.
Donc en fait, les règles s'assouplissent.
Donc c'est...
Non, ça s'assouplit pas. Il va y avoir de la gruge. C'est différent, Thierry.
Oui, mais.
C'est pas un assouplissement des règles, parce que les règles sont les mêmes.
Dans les faits. Quand on en a les moyens, on respecte les règles. Quand on en a pas les moyens, c'est plus compliqué.
On gruge. Je suis d'accord avec toi. On va terminer avec Valérie qui nous appelle de Paris et qui est salariée en laboratoire pharmaceutique. Bonjour Valérie.
Bonjour Estelle, bonjour à tous.
Bah écoutez, c'est une aubaine pour vous cette reprise du Covid en tant que laboratoire pharmaceutique.
Bah non parce que c'est pas travaille pas chez Pfizer donc tout va bien.
Ah d'accord. Bon bah OK. Ça vous fait peur ou pas Valérie?
Alors absolument pas et je suis très contente de vous avoir parce que ça fait très longtemps que je vous écoute et à chaque fois que je vous entends parler du Covid, je bondis derrière ma télé.
Ah mince.
Et là justement, je trouve ça hallucinant encore tout ce qu'on entend. J'ai l'impression qu'on est resté bloqué il y a 2 ans en arrière. On fait jamais aucun retour d'expérience sur les vagues précédentes. Cet été par exemple, on nous disait oh là là, 7e vague, attention, faut remettre le masque, c'est une catastrophe tout ça. Il y a eu des cas d'hospitalisation plus que d'habitude? Non.
Je sais pas, moi j'ai pas vu la 7e vague.
Il y a eu plus de cas qu'en janvier 2022 quand il y avait un demi-million? Non. Bon, alors est-ce qu'on peut peut-être arrêter de se prendre la tête, j'allais dire, vis-à-vis de ça et de se rendre compte que le masque c'est pas non plus la super solution. Là, je voyais votre intervenant aussi, tout le monde met la main dans son les mains sur le masque, ensuite c'est dans la poche. Vous n'allez pas me faire croire que c'est hyper simple après de se coller ça sur le nez.
C'est pas faux. On n'est pas censé toucher le masque.
Oui, elle n'est pas censée toucher le masque, mais excusez-moi, je fais le minimum que je peux en adaptant à la vie. Alors, excusez-moi de faire attention.
Mais c'est pas bien la description du bon sens.
Oui, mais je fais ce que je peux. Je me lave régulièrement les mains, j'ai du gel, j'ai le masque, je vais aller dans le métro, je vais mettre mon masque.
Arrête de toucher le masque.
C'était le gel, je n'ai pas touché.
Donc, et aussi par rapport au protocole, j'ai une fille qui est en crèche, les protocoles, ils datent toujours de mars de l'année dernière. Il faudrait peut-être aussi les mettre à jour, parce que quand là, vous parliez aussi d'absentéisme et tout ça, c'est pareil. Du coup, nous, c'est pareil. C'est pendant 7 jours, hop, pas de crèche, qu'est-ce que je fais, moi? Je peux garder ma fille? Je peux pas être en télétravail en même temps. Donc, ça devient aussi très compliqué par rapport au travail et par rapport aux employeurs. Moi, je travaille donc effectivement beaucoup à l'étranger. Au bout d'un moment, mon employeur comprend, mais au bout d'un moment, il va plus comprendre. Il dit, pareil, en Espagne, normalement avec, donc pas de souci.
Parce qu'ils n'ont pas d'argent en Espagne. C'est purement économique en Espagne. Je connais très très bien ce pays.
Il y a
des décisions qui sont prises pour des raisons purement économiques. C'est pas une philosophie, c'est pour les.
Mais il y a d'autres pays qui ont considéré ça.
Je peux me permettre, Valérie, vous êtes vaccinée?
Non.
Ah bah voilà, j'en étais sûr.
Mais quel rapport?
Non, mais quand on fait des remarques sur comme ça sur les gens, c'est.
Mais quel rapport? Mais d'accord, je vois pas le rapport, Fred. En fait.
Non, mais je sais pas, mais en fait rien.
Voilà, mais bon.
Non.
Mais après.
Mais quand on juge des gens comme moi qui.
Mais enfin, personne ne juge. Voilà, mais c'est une question. C'est une information. Il faut pas toucher le masque. En plus, là, en grognant comme ça, tu es en train de redonner l'information aux gens qui nous écoutent qu'elle t'a fait un faux procès. Il ne faut pas toucher le masque.
C'est marrant. En général, ce sont les non vaccinés qui font des.
Je vois pas le rapport.
Ce sont les non vaccinés qui font des faux procès aux gens. Non, mais
en tout cas, sur l'histoire du protocole, je suis désolée, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il faut assouplir les protocoles parce que c'est plus possible. Et parce que, si tu veux mettre les entreprises françaises à plat, bah vas-y, tu continues comme ça. Parce que s'il y a 200 000 cas et que ça fait 200 000 personnes. Et
quand on le touche, il est plus efficace que pas de masque.
Et quand t'es obligé de garder ton gosse, qui est asymptomatique, et obligé de le garder 7 jours, c'est un problème. Je suis désolée, c'est un problème.
Je suis d'accord avec vous, Estelle. Je suis le premier à le dire qu'il faut assouplir les
règles. Alors, évidemment, quand tu gagnes bien ta vie, tu prends une nounou, tu te débrouilles. Enfin, effectivement, quand t'es déjà ric-rac et que tu perds une semaine de travail, c'est un problème.
On est d'accord là-dessus. Mais le masque, même quand on le touche un coup de temps en temps, c'est plus efficace que pas de masque du tout.
Bon, écoutez, en tout cas, ça, c'est votre avis, Fred. En tout cas, merci Valérie d'avoir appelé au 3216. On vous a posé la question, le Covid vous fait-il encore peur? Manifestement non sur le plateau. Est-ce que c'est le cas également sur Twitter, Rémi?
C'est même plus que sur le plateau, là. C'est 84% de ceux qui sont prononcés sur nos réseaux sociaux n'ont plus peur du Covid.
Allez, dans un instant, le meilleur d'RMC, le zapping, c'est un gros zapping. Aujourd'hui, on se demandera si nos élus sont en danger après l'agression d'une députée RN de la Somme. Nos services d'urgence sont-ils des mouroirs à Strasbourg? Un malade de 81 ans est décédé après 22 heures sur un brancard aux urgences. Et puis, faut-il annoncer le salaire sur les offres d'emploi? Aujourd'hui, c'est pas obligatoire, mais ça pourrait le devenir. À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Il est 13h33, vous êtes sur RMC, RMC Story, canal 23, et c'est l'heure du meilleur d'RMC, le zapping dans Estelle Midi.
RMC, Estelle Midi.
Le zapping RMC.
Et on va revenir sur les meilleurs moments d'RMC ces dernières 24 heures avec Rémi Barré, Thierry Moreau, Fatima Benomar et Fred Hermel. On va commencer avec un extrait d'Apolline Matin ce matin. Nos élus sont-ils en danger? Samedi dernier, la députée RN de la Somme, Yaël Ménage, a été violemment agressée et menacée de mort à son domicile. Encore choquée, elle témoignait ce matin sur RMC.
Ce qui s'est passé, c'est que nous étions dans notre jardin, tranquillement avec mon époux. On entend des bruits très sourds, on se demande ce qui se passe. Ils étaient en train de taper dans le mur. Mon mari passe la tête par au-dessus pour regarder ce qui se passe, parce qu'on avait l'impression qu'ils étaient en train de le casser. Et ensuite, on est allé chez notre voisin pour lui dire, bah écoute, faut arrêter, on s'entend bien avec lui, donc pas de souci. Et en fait, on allait rentrer chez nous, quand à ce moment-là, le père et les deux autres fils sont sortis. Le père s'est jeté sur moi en criant, je vais te défoncer la gueule, espèce de sale pute de député RN de merde. Et après, ça s'est enchaîné très rapidement. Les gendarmes sont arrivés assez vite. Et ce qui a été le plus choquant pour moi, et là où j'ai eu le plus de mal à tourner la page, c'est lorsque l'un des fils a couru, malgré la présence des gendarmes, pour me dire « je vais chercher mon fusil chez moi et je vais te fumer, sale pute de député ». Et là, vraiment, la violence, la haine sur le visage de cet homme, ça reste incompréhensible.
Thierry Moreau, est-ce qu'il faut protéger nos députés ?
On devrait pas avoir à le faire, sauf qu'on a une violence à l'égard des élus. On a vu il y a quelques années, je crois, un maire qui s'était fait rouler dessus parce qu'il avait fait une remarque sur quelqu'un qui jetait des déchets sauvages. Donc on a une hystérisation des rapports entre les citoyens et les élus. Elle est élue du Rassemblement National. Moi, je partage pas les idées du Rassemblement National, mais jamais il me viendra l'idée d'insulter un élu de la République. À partir du moment où on est conseiller municipal, maire, conseiller régional, député, ministre, etc., on respecte les fonctions, électives ou pas d'ailleurs, parce qu'elles ne sont pas toutes électives. Ce sont des gens, en l'occurrence les députés, qui sont élus, donc ils ont une légitimité. On peut ne pas être d'accord avec eux. On les combat politiquement, dans les urnes, en manifestant devant leur permanence ou dans la rue, ou etc., etc. Mais on n'agresse pas, évidemment. Alors le problème, c'est qu'on va effectivement arriver à un système. La fracture est telle aujourd'hui entre une partie de la population qui trouve que les politiques ne répondent pas à leurs problèmes du quotidien.
Là, c'est parce qu'elle est RN aussi. Hein.
Pardon ?
Là, c'est parce qu'elle est RN
aussi.
Oui,
mais je crois que c'est aussi le symptôme d'une fracture entre une partie de la population qui considère que aucun politique ne règle les problèmes leurs problèmes du quotidien, et ces gens dont on estime qu'ils sont nantis, qu'ils sont trop payés, qu'ils sont loin de leurs préoccupations, etc. Et cette fracture, elle s'élargit de plus en plus, et on en arrive à des faits de violence qui sont inacceptables. Inacceptables.
Est-ce qu'on peut être un policier derrière chaque élu, Fatima Benomar?
Normalement, les élus, en fait, effectivement, ils bénéficient de protection par rapport à une sorte de sacralisation de leur statut. C'est pour ça, typiquement, par exemple, qu'il y a le fait qu'ils n'aient pas forcément répondre devant la justice, par l'immunité parlementaire pour certains élus, etc. Non, il faudrait pas arriver à un système où se traduit la fracture entre le peuple et ses élus par le fait de faire barricade autour des élus. Les élus sont censés représenter le peuple, ce serait une drôle d'image.
Allez,
et là, en l'occurrence,
jardin,
on a une personnalité du du Rassemblement national. Donc, il faut voir effectivement s'il a été visé du fait qu'elle est membre du Rassemblement national. Ce qui, effectivement,
après les propos, oui.
Voilà, c'est vrai que du coup, c'est tellement paradoxal de l'entendre dire attention à la haine, parce que bah, justement, tout ce qui est reproché au Rassemblement national, c'est bien des discours de haine qui produisent de la violence.
Donc
c'est
très bien qu'elle est là.
Donc on justifie la violence.
Non, je n'ai pas dit ça. Donc c'est intéressant en tout cas d'entendre une personne enfin du RN dénoncer la haine. C'est-à-dire que
ça fait longtemps, mais Marine Le Pen a eu un attentat chez elle lorsqu'elle était enfant. Souviens-toi, il y a quelques dizaines d'années. Donc la haine à l'égard du Front National, du Rassemblement National, a toujours existé.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que en fait, c'est juste qu'elle prenne conscience effectivement que les discours de haine produisent de la violence.
Oui, mais t'as aussi des députés.
Non, absolument pas. Je dis que justement, je ne peux pas justifier parce que je dis, vous voyez bien ce que produit en fait un discours de haine. Et donc la manière dont est ciblé particulièrement un mouvement qui a été plusieurs fois condamné à des incitations à la haine, voilà ce que c'est que la haine. Et évidemment que je ne la défends ni d'un côté ni de l'autre. Maintenant, je prends en compte effectivement que c'est un parti qui a fait toute sa politique sur l'incitation à la haine des minorités.
Une mise en perspective qui justifie un peu la violence.
Je ne veux pas dénoncer sa violence, c'est dire que je la justifie. C'est l'inverse.
Qui sont visés, Renaissance, des députés de Renaissance, pendant toute la première législature ont été attaqués. C'est vraiment une cible. Et les députés du Rassemblement National. Oui, ça touche à peu près tout le monde, mais en particulier les députés, les élus du Rassemblement National et les élus de la majorité.
On va passer au deuxième extrait dans ce zapping. Les GG ce matin, nos services d'urgence sont-ils devenus des mouroirs? À Strasbourg, un malade de 81 ans était venu aux urgences pour se faire soigner après une attente de 20 heures sur un brancard dans une zone de soins. Il a été découvert mort. Un drame similaire avait déjà eu lieu en mars dans ce même hôpital. Christian Prudhomme, le secrétaire général de FO Santé au CHU de Strasbourg, expliquait les dysfonctionnements récurrents chez les GG.
Nous, ce qu'on dénonce, c'est que 36 heures avant, on a fait une déclaration de droit d'alerte parce qu'on était dans un état de saturation des urgences et que rien n'a été fait. Et donc, du coup, il y a eu ce décès. Ce monsieur est arrivé le 31 début d'après-midi. Il est mort le lendemain. Enfin, on l'a trouvé mort à 14h40 le lendemain sur un brancard. Il a passé 22 heures sur un brancard. Personne de 81 ans, vous imaginez.
Mais pourquoi personne n'est venu le voir?
Alors, je pense qu'il y a des personnes qui venaient le voir, mais quand vous avez 50 patients et que vous avez prévu sur un service où on doit en recevoir 30, vous n'avez pas l'effectif en adéquation. Ouais. C'est pas la faute des soignants. C'est vraiment nous, on veut dire maintenant stop, c'est l'institution, il faut qu'il y ait une prise de responsabilité. Moi, je pense beaucoup à la famille. Beaucoup aux soignants qui ont pris en charge et qui se démènent.
Oui, faut pas les accabler.
Qui partent, qui quittent, parce que ce sont encore eux les fusibles. Non, nous, on a alerté deux jours avant pour dire que c'est pas possible.
Oui, c'est dingue, c'est des problèmes.
C'est hallucinant, quand même, Thierry Moreau, mourir sur un brancard après 20 heures dans un couloir.
Alors, ce qu'expliquait aussi Christian Prudhomme, c'est que c'est sans doute une personne seule. Et que donc il n'avait pas de la famille qui était auprès de lui, qui aurait peut-être pu alerter si jamais il y avait eu quelque chose. Mais enfin, ça n'excuse évidemment rien de ce qui s'est passé. Et dans le propos de Prudhomme, il était aussi dit que sur 110 personnes qui passaient aux urgences à ce moment-là, ils ont 4 lits. 4 lits. À l'instant T où ça s'est passé. Donc 4 lits pour 110 personnes qui se présentent aux urgences avec un flux normal de 220 urgences, c'est hallucinant. Donc il y a un vrai problème aujourd'hui. Et comme d'habitude, on a un problème de temporalité. Il va falloir régler le problème sur la longueur en formant des soignants et en rendant le métier attractif, ce qui n'est pas gagné. Et il va falloir tout de suite, là, de façon urgente, trouver des gens pour pouvoir avoir des urgences qui soient capables d'accueillir les gens.
Il y a eu vraiment une dégradation en plus, si je puis me permettre. Il se trouve que je vais aux urgences, je finis aux urgences tous les 2 ou 3 ans parce que je suis sujette à des calculs rénaux, ce qui est très très brutal.
Moi aussi, encore en point commun avec toi.
Douloureux. Donc, j'ai bien. C'est bien le seul point commun.
On va retrouver ensemble.
Et je me suis bien rendu compte effectivement que là, par exemple, la dernière fois que j'ai été reçue, c'était il y a 2 mois à peu près, et effectivement. On n'était pas reçu déjà. J'étais en salle d'attente alors que j'avais normalement des calculs rénaux. On nous prend en charge un peu plus rapidement. Donc j'ai attendu dans des douleurs atroces dans la salle d'attente. Puis au final, je n'ai pas eu droit à brancard parce qu'il n'y avait plus assez de brancard. Et du coup, on m'a mis dans une espèce de salle où on était assis. En fait, avec l'espèce de truc qui pend de perfusion avec les antidouleurs. Donc, c'est vrai que la question du manque de moyens, elle est criante. Enfin, on la voit quand on est des habitués, on va dire, des urgences. Elle nous saute aux yeux.
Et malheureusement, les soignants ne peuvent pas rien faire, ils ne sont pas assez nombreux. Donc, et comme il faut 10 ans pour former un médecin...
Je poserai simplement une petite question. Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui justifier le taux élevé de prélèvements obligatoires, le taux élevé d'imposition en France quand on voit ça.
Oui, tu poses un autre problème. C'est
bah,
c'est
à un moment.
Non, tu poses le problème de l'utilisation de l'argent public.
Bien, exactement.
C'est-à-dire
c'est
qu'on ça, on dépense beaucoup d'argent public et on voit qu'il y a des trous dans la raquette énormes.
Donc je pose
dans l'éducation, dans la police.
Mais tu as eu la réponse. C'était la loi de restructuration de l'hôpital public qui a fermé des structures et qui a baissé les moyens et qui a diminué de moitié les
personnels. Les impôts n'ont pas baissé. Les prêts obligatoires n'ont pas baissé. Les impôts n'ont pas baissé. Donc où est l'argent?
Troisième extrait dans ce zapping, faut-il annoncer le salaire sur les offres d'emploi? Actuellement, lorsque vous consultez une annonce, le montant de la rémunération n'est pratiquement jamais communiqué, mais cela pourrait changer, comme nous l'a expliqué ce matin Emmanuel Lechypre.
Bien, la première plateforme d'emploi au monde, Indeed, veut obliger les recruteurs à préciser le salaire qu'ils proposent, et ce, dès la petite annonce. Aujourd'hui, il n'y a qu'une entreprise sur trois qui le fait, d'abord parce qu'il n'y a pas d'obligation légale, et puis aussi pour des raisons stratégiques. C'est-à-dire, quand vous ne mettez pas le salaire, vous espérez que le nouveau que vous allez recruter il va vous coûter moins cher que celui qui est parti, et puis ça vous permet de garder vos secrets vis-à-vis de la concurrence et d'éviter la zizanie en interne, surtout.
Mais c'est évident qu'en pleine crise de la main-d'œuvre, ben, on est quand même content de savoir où on met les pieds et à quel prix on va être payé.
Bah, c'est vrai que ce serait bien de le savoir, d'abord parce que l'absence de cette information dissuade un candidat sur deux de répondre à une offre d'emploi, parce que ils ne veulent pas perdre leur temps, les candidats, ou ils ont peur d'être déçus, et bien beaucoup passent leur chemin si vous ne rendez pas cette information facilement accessible.
Il faut le rendre obligatoire, ça, Thierry Moreau.
Je ne réponds jamais à une annonce d'offre d'emploi quand j'ai eu besoin de. S'il n'y a pas le salaire.
Mais pourquoi? Il suffit de le demander à ton employeur quand tu es en rendez-vous, je ne comprends pas.
Ben parce que, alors, ça veut dire remplir un premier truc, avoir un premier filtre et ensuite demander le salaire.
Ben ouais.
Moi, je veux tout de suite pas perdre de temps et savoir combien est le salaire. Comme
quand
tu es
chômeur, tu as du temps. Quand tu es chômeur, j'espère que ton premier but, enfin, ta première préoccupation, c'est de trouver du travail.
Tu as du temps à perdre.
Oui.
Ouais, mais enfin,
ah oui, c'est... Si. Pourquoi si, ton boulot il était à 2000 non, voilà. Et que là, le boulot pour lequel tu postules il est à 1004, bah, en fait, tu vas même pas y aller. Façon,
mais voilà.
Si, tu sais rapidement, je vois.
Mais non, tu sais pas rapidement.
Mais
là,
non. Je comprends que ça puisse provoquer des problèmes au sein des entreprises. Donc, je comprends la réticence de certains patrons.
Oui. Mais non, faut être transparent.
Si tu proposes 2000 pour un poste, alors que celui qui est déjà en poste dans ton entreprise, il est à 1005, ah bah oui, c'est sûr que celui qui est à 1005, effectivement, il va aller gueuler, il aura bien raison.
Enfin, je pense que justement, s'il y a de la transparence, ça peut servir aussi de levier pour hausser les salaires.
Absolument.
Déjà, en fait, on perd du temps parce que on va d'abord poser la question à l'un, puis à l'autre, puis on va dire au premier, vous savez, quand même, j'ai une opportunité où on me paye un peu mieux. Donc tout ça, et en fait, effectivement, les plus grands perdants de cette manœuvre, ce sont les personnes qui n'ont pas appris à négocier, par exemple, exactement, comme moi, et qui vont accepter tout n'importe quoi. Alors que si c'est affiché, y a des personnes qui vont dire quand même, par rapport à la qualification qu'on te demande, etc., c'est pas cher payé. Donc je pense que cette transparence, ce serait complètement vertueuse.
Absolument. Mais ce qu'il ne faut pas mettre plutôt une fourchette pour permettre aussi
une marge de
négociation.
On peut mettre une fourchette en fonction de l'expérience, bien sûr. Mais là, il n'y a rien. Enfin, quand vous allez sur LinkedIn, il y a plein d'annonces sur lesquelles il n'y a aucune notion. C'est marqué la fourchette de salaire n'est pas disponible. Ben non, je suis désolé. T'es transparent. Alors, en revanche, ils te font une tartine sur tout ce que tu vas avoir à faire dans ton poste. Mais en revanche, je suis disponible. Bah,
c'est un peu
gagner.
D'habitude, normalement, quand tu acceptes un poste, c'est pas que pour le salaire, c'est aussi pour l'intérêt du travail. Donc,
oui,
ça
d'accord.
Passe pas.
C'est aussi pour travailler, tu vois.
Non, mais évidemment.
Mais oui, mais non,
c'est surtout c'est d'abord pour le salaire. Je suis désolé. Il y a beaucoup
c'est un ensemble. Il faut que le salaire soit en fonction du travail que tu fais.
Je pense que l'un des premiers critères, c'est le salaire.
Excuse-moi, qu'on décrive clairement ce que tu vas devoir faire. Je trouve ça très, très, très honnête.
Oui. Mais quelquefois, on charge beaucoup la barque.
Bah oui, mais tant mieux. Au moins, si ça te fait trop, tu vas pas.
Non, mais justement, si t'as trois pages qui t'expliquent qu'il va falloir qu'en plus tu donnes tu serves le café au patron, ce qui n'est pas le cas, je plaisante évidemment. Et qu'à la fin, on te dit, ça coûte 1150 euros, ça te rapporte 1150 euros ou la moitié d'un SMIC, t'y vas pas.
Allez, dans un instant, Stéphane Pedrazzi, la Minute Conso, on va parler de la tendance du cashback. On vous explique ça dans un instant. Et puis, à 14h, l'histoire d'une famille de 10 enfants dans le Bas-Rhin qui a touché près de 6000 euros d'allocation au mois d'août. Est-ce qu'il faut plafonner les aides sociales en France? On vous attend au 32-16. À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
13h50 sur RMC, RMC Story, c'est le moment d'accueillir Stéphane Pedrazzi, la Minute Conso, c'est parti.
RMC, Estelle Midi,
la Minute Conso.
Et aujourd'hui, on parle de la tendance du cashback. Stéphane, une façon de gagner de l'argent en faisant ses courses, c'est génial.
Oui, ça existe depuis une cinquantaine d'années aux États-Unis. Le cashback est en train de se développer en France. Le principe, c'est qu'on vous rembourse une partie de vos achats. En moyenne, c'est aux environs de 4% sous différentes formes. Ça peut être des offres de remboursement directement de la part d'une marque, des sites de cashback, il en existe plein avec des pièges, on va en parler. Et puis, ça peut être aussi votre carte de paiement qui, chaque mois, vous rembourse à la fin du mois un tout petit pourcentage de vos dépenses. Dans l'ensemble, c'est plutôt un bon plan, mais il y a quand même des pièges à éviter. Surtout, n'oubliez jamais que dans la vie, rien n'est complètement gratuit.
Alors, d'abord, les offres de remboursement, comment ça fonctionne, Stéphane ?
Alors, c'est le système le plus ancien. Nos grands-mères, probablement, le faisaient déjà. Vous achetez un paquet de café, par exemple, vous découpez le code-barre, vous le renvoyez à la marque avec le ticket de caisse, on vous rembourse quelques euros. Mais ça marche aussi maintenant sur des produits électroniques qui coûtent beaucoup plus cher. Vous achetez une télé, par exemple, vous pouvez avoir 200, 300, 400 euros de cashback sur une télé. Ça fonctionne généralement, mais attention, attention, faut bien renvoyer l'ensemble des pièces qu'on vous réclame, bien respecter les délais, parce que sinon votre dossier sera refusé et vous n'aurez aucun moyen de faire un recours.
Alors, plus moderne, plus récent, plus besoin d'envoyer des trucs par la poste, il y a maintenant des sites spécialisés dans le cashback.
Et il y a de plus en plus de sites, oui. iGraal, eBay Club, Poulpeo. iGraal, c'est le plus gros avec pratiquement 6 millions d'utilisateurs en France. Ces sites ont des accords avec des partenaires. Ça peut être Fnac Darty, Carrefour, Cdiscount. À chaque fois que vous achetez quelque chose, ils perçoivent une commission et ils utilisent une partie de ces commissions pour vous rendre une partie de votre dépense. Souvent, c'est quelques pourcents, mais parfois, sur des produits particuliers, ça peut atteindre 20 ou 30%. Donc, au final, tout le monde est content. Le site de cashback gagne de l'argent grâce à ces commissions. Le vendeur gagne de nouveaux clients et vous, vous êtes content puisque que vous récupérez une partie de ce que vous avez dépensé.
Bon, ça, c'est assez génial. Stéphane, on va pouvoir faire des économies en faisant nos courses, mais enfin, j'imagine qu'il faut quand même être un petit peu vigilant, quoi.
Il y a beaucoup de points de vigilance, effectivement. Ah. D'abord, vérifiez bien que le site de cashback ne vous facture pas un abonnement. Sinon, évidemment, ça va grignoter une partie de l'argent que vous allez recevoir. Ensuite, vérifiez bien qu'il n'y a pas de montant minimum à atteindre avant de percevoir votre argent sous forme de cash. Parfois, il y a un minimum, un plancher, 10, 20, 50 euros, et surtout un délai pour atteindre ce plancher. Et souvent, il arrive, en tout cas régulièrement, que des personnes perdent l'intégralité. Vérifiez bien que ça s'applique à tous les produits que vous achetez et pas uniquement une sélection. Sinon, il y aura une petite déception à l'arrivée. Méfiez-vous des offres qui sont trop belles pour être vraies. Sachez que le taux moyen, je vous l'ai dit, c'est 4%. Quand on vous propose 10 ou 20%, soyez attentifs. Parfois, il peut y avoir un loup. Soyez attentifs aussi au prix. On ne le dira jamais assez, mais quand il y a une offre de remboursement alléchante, parfois on est un petit peu ébloui. On oublie que le prix du produit est quand même l'essentiel. Donc, comparez bien les prix, parce que si on vous propose 20% de cashback, mais vous payez le produit 30% plus cher,
oui, ça ne va pas.
Ça sera pas une bonne affaire. Et puis, attention, je vais faire un peu le rabat-joie, mais au risque de surconsommation, parce que quand il y a une offre intéressante, parfois on est un petit peu tenté d'acheter un truc dont on n'a pas forcément besoin. Vous connaissez l'exemple, c'est les soldes. On achète des trucs qui restent dans les
armoires
et qu'on ne met jamais.
Et puis les cartes bancaires proposent aussi du cashback.
Et ça, c'est en plein développement. Ça se voit de plus en plus. Au début, c'était surtout réservé aux cartes premium type American Express, des cartes pour lesquelles vous devez payer une cotisation chaque année. Mais de plus en plus, ça marche aussi sur les cartes de débit, c'est-à-dire CB, Visa, Mastercard. Le principe est relativement simple. Vous effectuez un achat chez un commerçant. Le commerçant paye une commission quand vous utilisez votre carte. Et à la fin du mois, une partie de ces commissions, toute petite, vous est reversée. Alors, assez faible, hein, 0,1% chez Revolut, 0,5% chez American Express, jusqu'à 1% chez Monabank, 2% chez Floabank. Le pourcentage peut être plus élevé chez d'autres banques, mais dans ce cas, ça sera réservé à une catégorie de produits. Par exemple, Orange Bank propose beaucoup plus, mais ça ne marche pas sur tous vos achats.
Et puis un dernier mot, ne pas confondre avec un autre cashback qui n'a rien à voir.
Et ça, ça se développe, mais de manière encore plus récente en France. Vous allez faire des courses dans un magasin et vous retirez de l'argent. C'est-à-dire que vous achetez, je ne sais pas, un paquet de gâteaux. Et quand vous passez à la caisse, vous dites, est-ce que je pourrais avoir également 30 euros en liquide? Et c'est facturé sur votre carte bancaire. C'est très pratique pour les personnes qui habitent dans des zones où il n'y a pas de distributeur. C'est très pratique aussi pour des personnes qui ont un petit peu du mal avec la technique. Ne regarde pas comme ça, Fred.
Je ne savais même pas que ça existait.
Mais j'apprends quelque chose.
Alors, c'est très, très développé en Grande-Bretagne. Moi, j'y habitais il y a une vingtaine d'années et c'était extrêmement développé à Londres.
On a le droit de faire ça n'importe dans quel supermarché en France.
Il y a quand même des règles. C'est limité à 60 euros. Mais ça marche aussi avec les cartes à débit différé, sauf si le commerçant s'y oppose. Ce qui veut dire concrètement que si vos dépenses sont prélevées à la fin du mois, vous demandez 60 euros quand vous allez faire les courses et vous ne les paierez réellement qu'à la fin du mois. C'est une forme de crédit.
Mais le commerçant, il ne prend pas d'argent là-dessus ?
Le commerçant ne prend pas d'argent.
Génial. Bah, merci Stéphane, vous nous avez appris encore plein de trucs aujourd'hui. Tous les jours, la Minute Conso avec Stéphane Piedrazzi, 13h50, dans Estelle Midi. Dans un instant, on parle de cette famille de 10 enfants dans le Bas-Rhin qui a touché près de 6000 euros d'allocation au mois d'août. Est-ce qu'il faut plafonner les aides sociales en France? À tout de suite sur RMC et au 32 16.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi.